Sotrevoix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui dans les autres voies de la presse, nous recevons Quentin. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Donc Quentin, toi tu fais partie du média belge d'enquête et de récit Médor. Médor donc, eh bien, qui vient de publier son numéro 40, hein, un numéro anniversaire puisque c'est aussi pour les 10 ans de Médor. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter un petit peu les origines de Médor ?
D'accord, oui. Bah, Médor c'est un projet en fait qui a commencé à germer aux alentours de 2012. Autour de différents journalistes freelance donc, qui travaillaient pour différents médias en Belgique, mais toujours en qualité d'indépendant. Et donc des journalistes freelance, aussi des graphistes, des professionnels du monde de la communication, des photographes. Et on s'est rassemblés en fait, d'abord pour faire un constat sur la situation de notre métier, ou de nos métiers, en fait, des métiers de la presse, et se dire que bah, c'était compliqué. C'était une époque bah, où tout le monde se prenait un petit peu le web dans les dents, les baisses de lectorat étaient assez importantes. Et nous, on s'est dit comment est-ce qu'on peut repenser à la fin nos conditions de travail et une offre éditoriale sur base de ce qu'on jugeait comme étant un petit peu manquant à l'époque dans le paysage de la Belgique francophone, c'était l'enquête en fait. Et chemin faisant, en fait, pendant environ 2 ans, on s'est vu à multiples reprises avec l'idée de créer un titre de presse. Un titre de presse qui serait détenu par ses lecteurs et ses journalistes et autres personnes qui façonnent le média. Donc on s'est lancé en coopérative et on a commencé à faire du préfinancement en fait. Donc sur base d'une promesse, une promesse éditoriale qu'on appelle notre ADN aujourd'hui, on dirait une ligne éditoriale, mais en tout cas de proposer un média qui soit essentiellement axé sur la Belgique. Qui ne soit pas un média où l'opinion ou l'éditorial soit trop débordant. C'est vraiment un média qui est axé sur les faits, sur le récit, sur le travail de terrain, sur la profondeur et le temps, et aussi en le faisant avec une espèce de sans trop d'esprit de sérieux, quoi, je dirais, et en expérimentant notamment sur les outils, donc en servant uniquement d'outils sous licence libre, donc en sortant du monde de Adobe, InDesign, etc. Donc voilà, c'est comme ça que le projet est né. Donc on a effectivement 40e numéro. On a commencé en 2015, donc on fête nos 10 ans cette année. Et pendant toute l'année, il y a toute une série d'événements. On n'est pas vraiment ici en septembre sur un numéro anniversaire où on dit qu'on a 10 ans. On a plutôt préféré égrener les choses pendant l'année et surtout se repositionner. Donc on a lancé il y a un an un appel pour un journalisme robuste sur cette notion de robustesse. De se dire en fait on n'est pas là pour être dans la performance, on n'est pas toujours là pour chasser l'actualité tête baissée, et que c'était important surtout de réfléchir à la manière dont on produit du journalisme pour pouvoir le produire bien et que ça intéresse les gens et que ça nourrisse en fait la société, le débat public.
C'est ça, l'appel de Médor pour un journalisme robuste, donc réédition 2025, il y a eu deux formats, c'est un peu la charte du journal.
Tout à fait, c'est vraiment, le terme manifeste était un petit peu trop sérieux, donc on n'a pas pris ce terme-là, mais c'est vrai que c'était l'idée de se repositionner, de se dire 10 ans après, souvent quand on lance un média, on définit sa ligne éditoriale et on écrit effectivement une charte, et nous on avait écrit les éléments il y a 10 ans, et on s'est dit ayons un recul sur nos pratiques, pendant 10 ans qu'est-ce qu'on a fait ? Les promesses qu'on s'était données au début, où est-ce qu'elles en sont. Et donc, c'est un peu ça qui a comme résumé dans notre appel, ce qu'on appelle un peu nos lignes de force. Et on a fait le point sur où est-ce qu'on a un peu atteint les objectifs, où est-ce qu'on doit encore avancer, et en remettant des choses en avant. Notamment le fait, par exemple, de s'affranchir des GAFAM. On est entièrement sorti de tous les réseaux sociaux, type Facebook, etc., pour se recentrer à la fois sur le contact direct avec les lecteurs et sur des outils alternatifs, comme Mastodon, une alternative à Twitter, par exemple. Et donc, d'avoir vraiment cette réflexion là-dessus, pour nous, ça nous a aidés, parce que ça nous a permis de se dire où est-ce qu'on en est, en fait, avec ce projet-là, qui est un projet qui ne paye pas encore assez bien. C'est un projet qui est financièrement fragile. Mais c'est un projet, du coup, qui doit se répercuter sur le sens alors, parce que quand on fait des choses, voilà, dans des contextes financiers difficiles, c'est pas qu'on touche un salaire fin de mois et on est tranquille et on est dans une routine. Il faut toujours se réinventer et parler en fait, parler au lecteur à travers les articles, mais aussi de plein d'autres façons, donc, faire communauté, quoi.
Dans toute cette évolution, en effet, au début, Médor n'était pas en coopérative. C'est venu au cours de l'existence du journal, c'est bien ça?
Ah si, non, Médor a toujours été en coopérative. Donc
D'accord.
l'acte, c'est-à-dire au début, c'était une espèce de collectif de réflexion, mais à partir du moment où on a créé la coopérative en 2014, on a toujours été en coopérative, et maintenant, je vais le dire de façon approximative, mais on a environ 2000, 2000 coopérateurs. Donc c'est devenu quand même une grosse coopérative en termes de membres. Mais aussi avec une notion, c'est que le but, c'était justement de sortir un petit peu du modèle de financement un peu classique des médias. En Belgique, on a beaucoup des médias détenus par des familles, en fait, des familles de patrons de presse. Et nous, on s'était dit, il faut des coopérateurs, mais il faut une part qui soit accessible, donc elles sont à 20 euros, et qu'on ait 20 euros de part ou 1 million. On n'a personne qui a 1 million de part, mais on a la même voix, en fait. Donc il n'y a pas de possibilité de prendre le pouvoir parce qu'on détiendrait de l'argent ou beaucoup de parts sociales dans le projet.
Tu nous parlais un petit peu du monde des médias en Belgique détenus par des familles riches, entre guillemets. Est-ce que vous avez un équivalent Bolloré, un équivalent de la famille Blayé, nous pour ce qui concerne le sud-ouest en Belgique également, une monopolisation qui est en train de se mettre en place?
Alors, on n'a pas d'équivalent de Bolloré, puisque Bolloré, il y a vraiment un système d'immixtion dans les lignes éditoriales avec un point de vue politique très 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 à droite. Donc c'est-à-dire on n'a pas ça. Mais effectivement, pour le moment, on a un phénomène sans doute de concentration qui est en train de se passer, en tout cas du côté de la Belgique francophone, puisque le groupe Rossel, qui détient aussi beaucoup de médias en France, notamment de presse régionale, hein, comme La Voix du Nord, par exemple, l'Union Lardonnais dans le Nord. Ils ont d'autres titres, ils ont une grosse part, la moitié, je pense, dans 20 minutes. Donc ce groupe vient de racheter le deuxième groupe de presse de Belgique francophone qui s'appelle IPM. Et donc ils sont maintenant dans une situation quasi monopolistique, en effet, autour de l'information. Maintenant, c'est un groupe de presse qui n'est pas véritablement, qui est vraiment, c'est un groupe de financiers dans le l'idée d'avoir une presse rentable, mais qui n'est pas extrêmement interventionniste dans les lignes éditoriales. Ça, c'est ça la grosse différence, je dirais, avec un Bolloré, et qui n'est pas en train de faire des journaux comme outil de réputation pour le reste d'un business, type Bernard Arnault, par exemple. C'est vraiment, ils font de la presse, de la radio, ils ne font que ça, et de la régie publicitaire. Mais donc voilà, et nous, en Belgique, en parallèle de ça, on a toute une série en fait de titres de presse alternative, chacun avec leurs particularités, leurs lignes éditoriales. On a un titre de presse qui s'appelle Tchac, qui travaille vraiment sur les questions agriculture, environnement. On a un titre qui s'appelle Axel, qui est un titre qui travaille beaucoup sur les enjeux de féminisme notamment. Nous, on est regroupés avec tous ces groupes-là dans un collectif où on essaye de défendre nos droits par rapport à la presse, on dirait mainstream.
Ce collectif dont tu parles, c'est le kiosque.
C'est le collectif Kiosque, oui.
C'est ça. Et donc, ça regroupe plusieurs médias, l'ensemble des médias indépendants. Est-ce que c'est que du papier? Il y a aussi de la radio, du site en ligne?
Non, on est vraiment sur de la presse écrite dans Kiosque. Et donc, dans Kiosque, il y a, donc comme j'ai dit, il y a un titre qui s'appelle Tchak, qui travaille vraiment les questions d'environnement, d'agriculture. Il y a un titre qui s'appelle Axel, qui est un magazine qui travaille beaucoup sur les enjeux liés au genre, au féminisme. On a Alter Echo, qui est un magazine qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'actualité du monde social. On a le Ligueur qui travaille avec un angle sur les familles. On a Imagine Demain le Monde, qui est à l'origine d'un magazine qui travaille beaucoup sur les enjeux de coopération Nord-Sud et qui maintenant travaille sur les questions en fait d'écologie, de prospective écologique, etc. Et il y a un autre qui s'appelle Wilfried, qui est un magazine qui lui travaille beaucoup sur la politique, donc la mise en récit de la politique belge notamment. Et donc voilà, on est ensemble plutôt sur le côté défense de valeurs de presse commune. On ne vend pas nos médias ensemble, etc. C'est vraiment l'idée d'avoir un collectif, notamment pour s'adresser, par exemple, au monde politique.
On parle justement de la diversité des médias. Là, je crois que vous avez déménagé, vous vous retrouvez maintenant dans le quartier des Marolles. J'en profite pour faire un coucou. On avait interviewé pour les Haute-Voix de la presse quelqu'un qui était venu nous parler du journal du quartier. C'était le Pavé des Marolles. Je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs.
Eh ben, c'est une très bonne question parce que moi, je n'habite pas à Bruxelles. Donc, je suis dans le bureau des Marolles pour le moment, mais j'habite à Verviers. Je vais... Le pavé des Marolles, ça existe? Ok. Ah ben voilà, mais... Tout à fait. Ben non, voilà, le pavé des Marolles existe toujours, il est là. Et on l'a à la rédac. Donc, moi aussi, je découvre.
Ben voilà, vraiment un journal de quartier très très intéressant, très impliqué dans tout ce qui était aussi les questions d'urbanisme, un peu tous les liens sociaux dans le quartier. Bon, revenons donc à Médor, hein, le numéro 40. Est-ce que ce numéro 40, vous l'avez conçu d'une manière particulière, justement? Un, parce que c'est un chiffre, une dizaine, et deux, parce que c'était un peu le numéro anniversaire pour les 10 ans?
Ben pas vraiment. Là, c'est un numéro qui réfléchit sur le traitement médiatique entre guillemets de la campagne. On se pose la question de est-ce qu'il y a encore une campagne en Belgique et est-ce qu'elle est traitée de façon correcte dans les médias, dont le nôtre. Donc ça, c'est un petit peu la thématique qui le parcourt. Donc on n'a pas vraiment, voilà. En fait, on essaye de se dire qu'en fait, il y a quand même inévitablement un côté méta dans ce qu'on propose, avec beaucoup de réflexions sur ce qu'on fait, un échange. Puisque nos lecteurs sont aussi en bonne partie des gens qui détiennent des parts dans le titre, on n'a pas décidé de faire un numéro en revenant sur, je sais pas, les grandes enquêtes, etc. On s'est vraiment plutôt concentré sur, voilà, sur notamment l'édito qui dit rebattre la campagne et comment est-ce qu'on parle de la campagne ou comment est-ce qu'on n'en parle pas assez par ailleurs.
Médor, donc pour le numéro 40, toi tu as travaillé plus particulièrement sur des articles, un dossier?
Oui, alors moi j'ai fait différentes choses dans le numéro 40. J'ai fait un article qui est une enquête sur la faculté de bio-ingénierie de Jean Blou, en fait, qui est une école historique pour la formation bah, des bio-ingénieurs et tous les enjeux justement autour de l'agriculture. Et donc ça, voilà, c'était une petite enquête, notamment sur des enjeux de dissension interne et de concurrence entre les chercheurs au sein de ce campus, qui est un campus assez particulier en Belgique. Et puis par ailleurs, bah, j'ai fait l'interview, qui est une interview avec un géographe pardon, un géographe ruraliste belge. Extrêmement intéressant, qui s'appelle Serge Schmitz de l'Université de Liège. Et on a justement discuté en fait de c'est quoi cette notion de campagne, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, pour rebattre un petit peu les clichés qu'on peut avoir sur cette campagne, et notamment en partant d'une réflexion de se dire en fait le métier de géographe ruraliste devient de plus en plus rare, puisque la Belgique étant le deuxième pays d'Europe où il y a le plus d'habitants au kilomètre carré après les Pays-Bas. On pouvait légitimement se poser la question, mais est-ce qu'il existait encore de la campagne? Alors la réponse est oui, parce que la campagne, elle est avant tout dans la tête des gens. On se fixe chacun nos propres définitions de ce que c'est la campagne. La campagne peut parfois démarrer au bout du jardin et donc et être à côté de la ville, voire même en ville en fait. Donc c'était ça un petit peu les deux articles. Et puis après, ben, moi je l'ai édité, coédité, copiloté, comme on dit, parce qu'on n'a pas de rédacteur en chef. Chez nous, on a du pilotage et on tourne, en fait, on est cinq à tourner, comme ça, il n'y a pas de prise de pouvoir ou d'habituation au siège de rédacteur en chef, dans le chef de quelqu'un. Et donc, on coordonne, on réfléchit au sommaire de nombreux mois en amont, on s'occupe de tout le bouclage, on fait des allers-retours, parce qu'en fait, on a beaucoup de dialogues avec les journalistes autour de leurs textes. On revient, on demande des nouvelles versions, on parle des sujets en profondeur. Pour les sujets d'enquête plus délicats, là on en a un sur, voilà, sur des agressions sexuelles par un prêtre belge aujourd'hui décédé, mais avec des témoins en fait, qui ont relaté dans un article assez fort en fait, voilà, ce qu'ils avaient subi et le sentiment d'absence de justice. Et donc voilà, c'est des enquêtes sur lesquelles on a vraiment un soin particulier sur les détails, sur la protection des sources, sur la mise en récit, sur la vérification des faits. Et donc bah, c'est un boulot du coup qui devient voilà, assez intense quand on est en train de piloter un numéro.
Médor aussi, vous aimez énormément la bande dessinée, hein, ça fait d'ailleurs partie un peu de vos engagements. Comment est-ce que vous abordez la bande dessinée? Est-ce que c'est un appel fait à plusieurs illustrateurs, plusieurs créateurs en fonction du dossier, ou est-ce que c'est pareil, c'est un travail qui vous est proposé, un travail d'enquête?
Ça peut aller un peu dans tous les sens. En fait, la BD, c'était vraiment une volonté à l'origine. Il y avait la revue Dessinée en France qui sortait, etc. On était très, très intéressés au début de Médor de se dire, ah, c'est vraiment une manière de mettre en récit qui est à la fois très intéressante avec beaucoup de contraintes aussi. Et la contrainte, ça peut avoir du bon. Donc, on a plutôt toujours abordé la BD comme quelque chose de pas si évident en fait à mettre en place. Être éditeur de BD, c'est un vrai, vrai boulot. Ce qu'on a un petit peu appris sur le tard et où, sur lequel on tâtonne, je pense, parfois encore un peu. Mais donc, il peut y avoir des gens qui viennent avec cette proposition-là. Ou nous, on peut recevoir une proposition d'article et à un moment se dire, ah bah tiens, ça ferait une bonne BD. Proposons-le, parce que ça peut être quelque chose qui est peut-être pas trop compliqué, qui peut tenir en 12 pages. Et ça permet aussi de travailler sur un couple auteur, autrice visuelle et journaliste, en fait, et de les mettre ensemble autour d'un sujet et d'avoir le regard de quelqu'un qui pense en image face à un journaliste ou une journaliste qui a plutôt bah, évidemment l'habitude de penser en texte. Et ça crée des choses intéressantes. Donc ici, par exemple, on a une BD sur les sourds, en fait, sur comment est-ce que les sourds sont finalement bah, assez peu représentés, ou représentés de façon assez caricaturale, en fait, dans les médias, et comment ça se passe, en fait, pour eux. Donc, voilà, ça, c'était une BD qui était un petit peu touchy, parce qu'on voulait voilà, reproduire l'expérience de la communauté des sourds de façon correcte.
Je trouve que vous avez un sommaire qui est très très diversifié, hein. Il y a énormément d'approches différentes. On a parlé justement là, du père Germain, hein, c'est l'abbé Pierre Belge, comme vous dites. Mais c'est vrai que moi, je me suis retrouvé dans un univers que je ne connaissais pas du tout non plus, avec l'article sur le bodybuilding, mais féminin.
Oui, tout à fait.
L'approche était assez intéressante. C'est vrai que c'est un univers complètement inconnu. Pareil, vous essayez de pas prendre parti, c'est vraiment plutôt recueillir les témoignages et essayer de comprendre un peu cet univers-là.
Oui, là, Philomène et les deux photographes qui ont travaillé sur le sujet ont vraiment justement voulu un peu inverser le regard qu'on peut avoir un peu en mode striptease, hein, comme l'émission de télé sur ce que serait le monde du bodybuilding. L'idée était justement de regarder, en fait, de voir quelles étaient les motivations pour ces femmes, en quoi cette question du rapport au corps était importante, en quoi est-ce qu'elle pouvait aussi être questionnable, hein, parce qu'en fait, on fait subir des choses à son corps, notamment dans la période de sèche, avant les galas, de façon assez incroyable. Voilà, et donc l'idée est effectivement de ne pas, et on essaye souvent de ne pas juger, en fait, et d'aller justement au-delà de nos préjugés. Et c'est ça qui rend, en fait, cette démarche intéressante. Et je pense qu'en fait, sur le bodybuilding, ça raconte aussi, parce que ça se passe aussi un petit peu dans les territoires, dans les zones rurales, etc., de raconter un peu sous un angle différent ce que ça peut être, ce vécu-là.
Et on continue un petit peu comme ça à tourner les pages. C'est vrai que justement, dans ces articles qui nous amènent dans des univers différents, il y a aussi celui sur Tournai, sur ce rassemblement
Oui.
qui a plus de 800 ans, je crois, qui est
Oui.
une procession religieuse, mais qui maintenant, entre guillemets, pour certains est une procession religieuse, pour d'autres, non, pas du tout. C'est un événement qui permet de se retrouver.
Oui, exactement. Oui, ben c'était ça le. Donc au début, alors là, ça part aussi en fait du travail d'un photographe qui fait un travail assez au long terme en fait sur cette procession, en se rendant compte que quand il déménage dans cette ville pour s'y installer, il y a cet événement-là, et que cet événement-là raconte plus de choses presque sur ce qu'on a comme rapport au folklore et à la religion que sur le contenu de la procession en tant que tel. Et donc là, on fait vraiment le choix de faire ce qu'on appelle maintenant des récits richement illustrés, alias des RRI, pour rigoler, c'est-à-dire en fait un vrai travail de photo de long terme, mais aussi avec du texte pour le soutenir, et de l'interview et de la parole de ces gens-là. Et c'est vrai que le travail sur la procession, bah, un travail photo est assez léché, très composé, comme ça. Et puis après, le texte aide en fait à mettre en lumière, et une fois de plus, de ne pas avoir un regard jugeant ou d'aller au-delà de qui sont ces dingues qui font cette procession pour comprendre en fait quelle place cet événement folklorique peut encore prendre dans la vie des gens, une époque où justement folklore, sache religion ou rapport aux religieux ont tendance en fait à s'effacer de nos vies.
Il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais qu'on puisse discuter, mais l'émission est trop courte. Parce que je trouve que j'ai trouvé super intéressant aussi l'article Voyage à Belgoville, donc
Oui,
qui
très très
retrace
bien.
un peu l'histoire d'une industrie belge qui allait s'implanter donc au Canada. Bon, l'industrie a disparu, mais il y a également tous les impacts que ça a eu sur la population. Et
Oui.
maintenant, avec de nouveau une sorte de nouveau mirage économique qui pourrait également arriver sur cette zone.
Oui, bah c'est ça. Nous, en fait, ce qui nous a intéressé dans cet article, cette proposition d'une journaliste qui s'appelle Amélie Mouton, qui est basée au Canada, qui est belge, mais basée au Canada, qui a déjà collaboré pour nous, avec nous par le passé, c'est qu'elle venait avec une proposition qui était pas uniquement une histoire anecdotique de tiens, c'est quoi cette usine au début du XXe siècle au Canada, mais avec une lecture finalement qui est assez intéressante parce qu'en fait, en Belgique, surtout en Belgique francophone, on a un regard compliqué en fait sur notre passé industriel qui a à la fois été un grand moteur de lutte sociale, mais aussi un grand moteur de création d'inégalités depuis la fin de l'industrialisation massive dans les années 70-80. En fait, on est face à toute la difficulté de rebondir en fait après ce passé-là. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'à Belgueville, c'est passé une forme de, on n'a pas mis ce mot-là, mais une forme de colonisation économique en fait, qui dans les replis de l'histoire en fait a eu un impact sur les populations natives locales. Et donc c'était vraiment un papier assez riche en fait sur qu'est-ce que l'entreprise peut nous raconter de notre rapport au monde, de notre rapport à l'investissement, de notre rapport à aller accaparer les territoires des autres. Et donc super papier, donc je recommande beaucoup la lecture.
J'aurais voulu qu'on discute un petit peu de ce que vous avez mis en place, l'enquête participative sur les sentiers et chemins publics entravés. Vous en faites aussi mention là dans le numéro 40. Il y a un appel justement à participer. Tu peux nous raconter un petit peu parce que nous en France, en ce moment, on est très très embêtés par la destruction de nos forêts pour des projets d'usines appelées, entre autres, que ce soit dans le Jura ou dans le Massif central. Et on a en Alsace, c'est des sentiers qui ont été fermés, qui ont été privatisés. Donc, voilà, je voudrais savoir un peu ce qui se passe par chez vous et quel est le but, entre guillemets, de cette enquête.
Oui, c'était une idée en fait qui traînait dans le recoin de la tête de plusieurs personnes chez Médor, notamment suite à des propositions de sujets. Il se fait qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui nous proposent des sujets. On a un formulaire de propositions si quelqu'un a une idée, un document, une info. Et des gens nous avaient déjà alertés en fait sur le fait qu'il y avait énormément de sentiers en Belgique qui étaient en fait des sentiers tout à fait publics, mais qui parce que pour plein de raisons différentes étaient accaparés par des personnes privées, souvent d'ailleurs des grands propriétaires terriens. Et donc on s'est dit on va faire un appel parce que on le fait pour les enquêtes participatives quand on se dit en fait recueillir l'avis slash les informations au plus grand nombre des gens qui pourraient se sentir concernés par ce projet-là, ça va nous aider en fait à obtenir une information qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Et donc on a lancé une cartographie où les gens peuvent en fait dire près de chez moi j'ai un sentier qui est obstrué alors qu'en fait c'est un sentier public. Et donc on a déjà eu beaucoup beaucoup de signalements. 600, je pense. Et ensuite, nous, on regarde certains cas, on essaie de comprendre quels sont les schémas, les patterns, comme on dit, qui se dégagent de ça. Et là, c'est en cours d'écriture, donc on est allé voir des gens qui défendent l'accès aux sentiers, notamment une association qui s'appelle chemin.be. Comment est-ce qu'on fait, en fait, quand on constate un sentier obstrué ou accaparé pour le dénoncer? Et ça pose vraiment la question de, en fait, quelle est notre prise de conscience en fait par rapport au territoire. À qui appartient le territoire? On se rend compte qu'en Belgique, voilà, le territoire est beaucoup entre les mains des privés. Est-ce qu'ils ont le droit de prendre les sentiers en plus, qui sont des sentiers qui permettent des balades? Évidemment que non. Mais là, une fois de plus, se pose la question de l'action des pouvoirs publics en fait par rapport à ça. Donc voilà, c'est une enquête assez vaste sur laquelle on est encore en train de tirer un petit peu les fils et qui aboutira dans le numéro de mars. Donc on est quasiment sur un processus d'un an.
Je vais te refaire un petit retour en arrière l'hiver 2023-2024 avec le numéro 33. Le numéro 33, il m'a fait marrer. C'est celui justement où il y a un trou. Il est percé. Au centre du magazine, vous avez un trou. Vous pouvez voir à travers. Qu'est-ce qui vous a pris?
Le trou, c'était la manière de dire qu'on avait un trou dans le budget. Et donc, quelqu'un est venu avec la brillante idée de se dire si on fait un trou dans le numéro pour symboliser ce trou dans le budget, qui était une manière un peu originale, alors pas de faire un appel au secours, mais de dire aux gens, là, on est un peu dans le dur, on sort de ces périodes compliquées du Covid, etc. Et là, pour une fois, on se rend compte qu'en fait, on a un petit peu, c'est un peu compliqué au niveau des comptes. Il y avait une baisse dans les ventes, les abonnements. Et autour du trou, parce que le trou, c'est un petit peu la manière de symboliser le fait que, on a eu cette réflexion de se dire, on a fait notre appel, on s'est dit, quitte à mourir, autant mourir de notre belle mort. Et ce numéro-là, qui est justement titré Même pas mort, servait un petit peu à symboliser tout ça. Et en fait, ça a redonné un coup de boost, je pense, à l'équipe. Ça nous a aussi fait réaliser qu'en fait, ce qu'on faisait un petit peu plus par habitude, au début, chaque Médor est une espèce de grosse aventure, mais au début, c'était vraiment des très, très grosses aventures. Là, on a un petit peu amélioré certains processus, etc. Donc, on est peut-être justement un peu plus robuste qu'avant. Mais on s'est dit, on peut aussi très, très bien, très, très vite mourir, en fait, comme titre de presse. Le trou, c'était la manière de symboliser ça. Maintenant, faire un trou dans un magazine, c'est en fait pas si évident. Donc, on a failli ne pas y arriver.
Je
Mais
pense qu'en termes de maquette, ça doit pas être facile. Ouais.
Alors, en termes de maquette, c'était pas facile parce qu'il fallait prendre compte du trou dans la mise en page. Et donc, il n'y a rien qui dépasse et qu'on pourrait louper. Puis, par ailleurs, on a dû faire fabriquer une pièce dans le Jura, je pense, pour que notre imprimeur puisse percer les magazines. Et la pièce, au début, en fait, elle n'a pas bien tenu, donc elle s'est cassée, donc on a failli pas sortir à temps. Et on s'est retrouvés tous ensemble à forer des trous plusieurs centaines de numéros pour quand même être sûr d'être en librairie à la bonne date. Et donc, en fait, ça symbolise quand même un petit peu l'aventure de Médor, puisqu'on défend quand même un peu notre travail comme étant un travail un peu d'artisanat. Là où le menuisier sait faire des chaises, on estime qu'on a une petite compétence pour faire du journalisme et modeler de l'information. Et donc là, faire le trou était vraiment un truc très très artisanal, en fait.
Mais ça rend super bien. Ça fait peut-être partie de votre, parmi vos engagements du 7e, continuer à se marrer.
Oui, l'idée c'est. Enfin, on est dans un monde qui est un petit peu anxiogène, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en fait, l'idée quand même de se dire, évidemment, le journalisme est vu comme quelque chose de très très sérieux, mais c'est très important aussi qu'il puisse sortir de sa tour d'ivoire et à un moment prendre, du temps pour rigoler. En fait, c'est important de pouvoir se marrer. Alors, c'est compliqué de faire du journalisme en écrivant avec de l'humour. Donc ça, on ne prétend pas qu'on va faire des papiers toujours poilants. On se dit peut-être que dans l'attitude, on peut être aussi parfois relax, c'est de se dire entre tout ce qu'on couvre, qui est souvent lourd et sérieux et préoccupant, il faut qu'on ait aussi une place pour faire des choses qui sont un peu plus rigolotes, c'est de se dire que en fait la vie c'est aussi ça en fait.
Et du coup, je pense que ça devrait être assez rigolo, là, les différents rassemblements, j'allais dire, non, les différentes rencontres à venir pour fêter les 10 ans de Médor, sachant que là, donc, on est déjà mi-octobre, mais il y a encore plusieurs rencontres dans plusieurs villes en Belgique.
Oui, tout à fait, notamment avec des matchs d'impro. Donc ça, il y a toute une série de matchs d'impro, ce qu'on appelle la sortie d'usine chez nous. En fait, la sortie d'usine, ce sont les personnes qui travaillent autour de, vraiment qui tiennent le numéro, enfin le titre à bout de bras dans sa fabrication, et notamment sur la communication. Elles ont trouvé pas mal de chouettes idées pour justement aller à la rencontre des lecteurs, sans spécialement être dans des conférences ex cathedra sur nos contenus. Et donc il y aura des choses autour de l'impro, et il y aura sans doute une très belle fête en décembre.
Donc parmi les dates à venir, il y a le 18 novembre à Louvain-la-Neuve, le 29 novembre à Mons, le 3 décembre à Bruxelles et le 10 décembre à Liège. On peut retrouver tout ça sur le site médor.com.
Tout à fait. Tout sur le site medor.coop. On a une newsletter parle un peu de nos activités, fait des résumés du numéro. Et aussi, en fait, Medor peut se lire à l'étranger. S'il y a des Belges dans votre coin qui ont envie d'avoir une petite reconnexion journalistique avec leur pays, ils peuvent tout à fait s'abonner sans problème. Et par ailleurs, quand on a l'abonnement, on a aussi accès à toutes les archives sur le site web.
Eh ben, merci beaucoup, Quentin, et
Merci à
au
vous.
plaisir de continuer à lire Médor.
Merci beaucoup pour votre intérêt et bon courage pour les nombreux autres numéros de votre émission.
Merci, à bientôt.
Merci, au revoir.
C'était les autres voix de la presse avec Quentin pour le journal Médor. À la semaine prochaine, d'ici là.
Où va se diriger ton stylo?